Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission, Mathieu Laine et Honoré de Balzac. Oui, vous avez bien entendu, Honoré de Balzac. Et puis dans la deuxième partie, eh bien, nous retrouverons nos critiques, Christian Chabagneux et Jean-Marc Daniel, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule, avant que nos chroniqueurs eh bien, ne nous fassent part de leur découverte dans le temps. Stéphanie Collot, notre bibliothécaire, et puis Benaouda Abdennaïm qui, encore une fois, a parcouru le globe à la recherche des meilleures études. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. 150 ans les séparent et pourtant, ils portent tous les deux le même regard acéré sur le peuple français, versatile, obsédé par l'égalitarisme, peu respectueux des lois. Tous les deux dénoncent les méfaits de l'administration pléthorique, de la fiscalité excessive et de la centralisation. Le premier s'attristait de voir la France devenir une nation mesquine et déclinante. Le second déplore l'infantilisation des Français qui versent un peu plus chaque jour dans le culte du précautionnisme, cette religion de la protection absolue et du risque zéro au détriment de leur liberté. Le premier, c'est qui ? Ben le premier, c'est l'immense, le gigantesque, le colossal Honoré de Balzac qui a trouvé en Alexis Carclings Marchais un formidable porte-parole. Bonjour Alexis.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes associé au cabinet de conseil 8 Advisory, spécialiste aussi de l'histoire économique et vous publiez un livre absolument incroyable, hallucinant. Ça s'appelle « Notre monde selon Balzac, la comédie humaine au 21e siècle » aux éditions Ellipse. Il a relu toute la comédie humaine, messieurs, dames. Et puis d'un côté, Honoré de Balzac, de l'autre, Mathieu. Mathieu Laine, eh oui, le second, c'est vous. Mathieu, vous êtes entrepreneur, prof à Sciences Po, président de l'Institut Copé, et vous publiez Infantilisation, cet état nounou qui nous veut du bien. C'est dans la collection La Cité, des presses de La Cité. Je commence avec vous, Alexis Carclings Marchais. Mais qu'est-ce qui vous a pris de relire tout Balzac comme ça?
Un coup de cœur, un coup de foudre, comme une rencontre amoureuse. J'étais un traumatisé du Père Goriot au collège, comme beaucoup d'élèves français qui trouvaient que cet auteur était bavard, ennuyeux, pompeux. Et puis, il y a 3 ans, je suis tombé sur Le médecin de campagne, que j'ai relu et qui est un véritable traité d'économie, qui est exceptionnel, avec des considérations sur la concurrence, sur la compétition, sur l'administration, où il dénonce la fiscalité folle, la bureaucratie, la centralisation parisienne. Et il explique comment un médecin prend un village du Dauphiné et le revigore complètement, le redéveloppe avec des règles d'économie qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, Emmanuel. Alors, et donc, génie, et puis, premier livre, ouais. On attaque derrière la maison du Singel, on y parle de banque, on attaque Illusion perdue, le chef-d'œuvre de Balzac, on parle d'entrepreneur pendant quasiment 400-500 pages, etc., etc. À la fin, 90 livres, c'était impossible de m'arrêter, en me disant, à chaque livre que je lis, j'en trouve qu'il y a toujours quelque chose, alors tout ne se vaut pas, ouais. Mais il y a quand même une très très grande qualité, et effectivement, Balzac est un génie, oui.
Alors, vous dites, il a tout compris de la France et des Français de son époque. Comment il décrit l'esprit français ?
Alors, l'esprit français, il y a une forme d'admiration pour un peuple génial, créatif, qui est capable du meilleur, mais qui malheureusement est aussi capable du pire. N'oublions pas, Balzac écrit la comédie humaine entre 1829 et 1847 à peu près, il décède en 1850, et lui nous parle surtout et avant tout de la France, de la Restauration, donc juste après Napoléon, et de la monarchie de Juillet. Et donc il n'aime pas cette période qu'il trouve justement médiocre, déclinante, et il fait référence aux grandeurs de l'histoire française, et ça il l'aime. Ce qu'il aime beaucoup moins, c'est l'obsession pour l'argent, mais la finance, j'allais dire spéculative. Ouais. Il aime les entrepreneurs, il n'aime pas les gens qui font de l'argent pour l'argent. Il reproche aux Français d'être incapables de suivre, de respecter la loi, mais en même temps, il leur dit... En même temps, vous êtes sans arrêt, recevoir des nouvelles lois et de nouvelles injonctions.
Leur obsession pour l'égalité et les... Mais j'ai même envie de dire l'égalitarisme plus que l'égalité.
Il a une très très belle phrase dans un de ses ouvrages, en l'occurrence Béatrix, qui est un roman assez méconnu, dans lequel il dit « Les Français, en cherchant l'égalité et l'égalitarisme, ont développé le droit à l'envie, avec un E majuscule, autrement dit la jalousie. » Voilà. Ouais. Et donc, il nous décrit cette obsession de l'égalité, de l'égalitarisme qui tue la France. Tout ça servi par une fiscalité. Et Mathieu Laine, je sais qu'il pourrait partager cet avis. Il écrit dans un autre ouvrage, en l'occurrence dans La Maison de Nucingen, la fiscalité a ôté l'esprit de conquête aux Français. Voilà. Et donc ça, je veux dire, c'est écrit en 1835, 1837. Et c'est exceptionnel parce que c'est toujours valable.
Ah, oui, alors c'est ça qui est vraiment stupéfiant. C'est-à-dire que, ok, qu'il soit le génie de son époque, mais tout ce qu'il écrit résonne complètement aujourd'hui. C'est-à-dire que dans Balzac, on trouve alors ce que vous avez dit sur la fiscalité, sur la centralisation, on trouve la misère rurale et l'isolement des provinces, on trouve Paris sale et trop
exactement,
cher.
Exactement.
Tout y est.
Oui, même le combat féministe. Balzac était peut-être un des premiers, peut-être le premier auteur féministe où il défend le droit à l'émancipation des femmes. Et encore une fois, il faut se rappeler l'époque où il écrit ceci, c'est complètement révolutionnaire. D'ailleurs, l'Église lui en veut beaucoup à l'époque, même si lui se revendique catholique, l'Église catholique ne l'aime pas du tout. Il sera d'ailleurs mis à l'index et son œuvre sera rejetée. Donc oui, un auteur extraordinaire. Alors évidemment, ça pose la question, et je l'entends de façon implicite, Emmanuel, mais au fond, rien n'a changé. Est-ce que rien n'a changé? Mais alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Ben finalement, je crois qu'il y a dans les corpus des idées, il faut se rappeler qu'il y a des réalités. Il y a une réalité par pays, un peuple, c'est une réalité dans la culture, dans la façon d'être, et qu'aucune politique ne peut finalement prendre trop de distance par rapport à cette réalité. Et je trouve que la force de l'œuvre de Balzac, et en faisant ce travail de 3 ans, c'était une façon de résumer la pensée de cet immense écrivain, c'est de vraiment faire ressortir ces transversalités, ces permanences de l'histoire qui nous concernent encore aujourd'hui, sur lesquelles tout programme politique devrait s'appuyer.
Oui, parce que ça veut dire aussi qu'il est quand même assez vain, malgré ce qu'essayent de nous dire beaucoup de nos dirigeants politiques, d'espérer changer le peuple, en fait.
Alors oui, on peut...
Qui est le rêve, sans doute, de tout gouvernant, de tout dirigeant.
Bien sûr, mais c'est une lecture d'Honoré de Balzac. Ça n'est pas une lecture absolue, et donc c'est un parti pris. Il a un parti pris. Lui est admiratif des grands hommes, et des grands hommes, ceux qui sont capables de, justement, d'emmener les peuples. Il avait une admiration pour Napoléon Bonaparte, même s'il, là aussi, il est capable de le critiquer. Il était impressionné par ce génie et par cette vigueur.
Il s'inquiète de voir la France devenir, et je vous cite, une nation mesquine, médiocre et déclinante.
Ah oui, qui ne pense plus qu'à l'apparence. Qui pense plus qu'à gagner un peu plus que son voisin. Alors pour celui qui gagne un peu plus, c'est formidable et ça lui permet de tomber dans l'apparence. En revanche, ceux qui réussissent, ils ont tendance à un peu étaler leur argent, ça lui déplaît beaucoup. Et au fond, cette espèce d'obsession de l'argent au détriment des grandes conquêtes, et notamment via l'entrepreneuriat, parce qu'il y a de très très beaux portraits d'entrepreneurs, hommes et femmes dans la comédie humaine. Il y a David Séchard dans Édition perdue, il y a beaucoup de femmes. D'ailleurs, la femme de David Séchard aussi, Ève Séchard, qui a un rôle très important. On va retrouver César Birotteau. Bref, il y a dans toute l'œuvre de Balzac, on va retrouver des personnages. Et ça, il aime les entrepreneurs, il aime les hommes politiques qui sont capables d'emmener un peuple. En revanche, l'obsession pour le bal, le prochain bal, ce qui était d'ailleurs un paradoxe, parce que lui-même sortait beaucoup, il aimait ça. Balzac n'est jamais à un paradoxe près. Mais oui, il y a une espèce d'énergie incroyable qui se dégage dans son souhait, dans la façon dont il décrit la société. Il a tellement peur que la France devienne une petite nation.
La comédie humaine, c'est l'œuvre qui consacre le plus de place à l'économie, oui. Et c'est un vrai traité d'économie politique. Résumez-nous sa philosophie. Est-ce qu'on pourrait le classer, par exemple, aujourd'hui, dire qu'il est libéral, qu'il est...
Il est favorable à la liberté économique.
Ouais.
Il se dit pourtant anti-libéral, mais pas au sens où on l'entendrait aujourd'hui, ou même au sens anglo-saxon, c'est-à-dire là pour le compte progressiste radical. Non, il est favorable à la liberté d'entreprise, et d'ailleurs il écrit des pages magnifiques dans Le Médecin de Campagne sur la concurrence, en disant « la concurrence c'est la vie ». La concurrence, c'est la vie. Sans la concurrence, une entreprise se meurt et le protectionnisme est dangereux. C'est quand même extraordinaire d'écrire cela. Donc il est favorable à la liberté économique, mais dans le même temps, il est plutôt favorable à un État à sa place. Il n'aime pas que l'État intervienne trop dans l'économie, soit sous forme de fiscalité, soit sous forme d'investissement, soit sous forme de règles et de lois qui sont décidées à Paris et qui n'ont aucune mise en pratique possible au niveau local. Donc voilà, c'est un corpus, on va dire, plutôt libéral, mais avec un attachement à l'État dans ses fonctions régaliennes et dans sa capacité à emmener le peuple.
Oui, parce qu'il est quand même effectivement assez attaché à la liberté individuelle.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il est impressionné par les individualités dans l'histoire. Et donc, il y a beaucoup de portraits. Il consacre énormément de pages à des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de France. Et ce sont toujours des individus qui ont su s'extraire de la masse par justement une énergie incomparable.
Alors, vous citez notamment, par exemple, dans Les employés.
Ah oui, un livre extraordinaire.
Alors, Les employés, ça critique de la fiscalité et de l'administration trop lourde.
C'est fantastique. fantastique. Voilà un roman qui est complètement méconnu et qui est pourtant un des meilleurs de Balzac. C'est le portrait d'un homme qui décide de réformer l'administration fiscale en voulant baisser la dépense publique, sans augmenter bien sûr les impôts, en recentrant les fonctions principales de l'État et en se concentrant sur des fonctionnaires moins nombreux mais mieux payés. Voilà. Et donc, on en est là. Et c'était les employés, on est autour de 1840.
Et on en est toujours là.
Et on en est toujours là. Donc,
toutes les réformes de l'État, enfin les dizaines de projets de réformes de l'État.
Et pourtant, l'État était à l'époque où Balzac écrit, évidemment, bien moins développé qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, on imagine déjà cette crainte. C'était un propos véritablement révolutionnaire pour l'époque.
Alors, il a une vision assez moderne aussi de ce que doit être l'éducation.
Oui.
L'éducation nationale.
Oui. Il a beaucoup écrit sur l'éducation, notamment un très beau livre qui s'appelle Ursule Mirouette, là encore un roman méconnu, où il raconte l'histoire d'une jeune fille qui était éduquée justement par à la fois la connaissance, mais pas apprendre par cœur. Il déteste cette éducation, on bourre les enfants d'apprentissage. Et au contraire, il faut être par le jeu, par le plaisir, par la culture. Il se méfie en revanche des grandes écoles. Il dit l'élitisme à la française produit peut-être de belles intelligences pour les ministères, mais elle ne produit aucun conquérant et aucune de ses énergies sont capables de transformer une nation.
Ah oui, donc il avait vraiment tout écrit, c'est absolument...
C'est pour ça que je n'ai pas arrêté Emmanuel.
Et alors, qu'est-ce qu'il dirait... j'allais vous demander, qu'est-ce qu'il écrirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il penserait de la France d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il penserait de la gestion de la crise sanitaire? Qu'est-ce qu'il dirait sur le rôle de l'État, sur les Français qu'on infantilise? Et on va y venir avec Mathieu Laine.
Je pense qu'il faut faire attention à ne pas interpréter un auteur et le mettre dans une autre époque, même s'il y a évidemment des messages qui traversent le temps. Je crois que cette inquiétude sur une France qui serait déclinante, qui serait peut-être mesquine, qui se priverait de ce génie qui fait ce peuple, parce qu'une administration trop lourde ou parce qu'une bureaucratie trop lourde, parce qu'une infantilisation trop puissante empêcherait cette libération des énergies, je pense qu'il serait très très critique avec cette mentalité, et pas seulement avec le gouvernement actuel ou le président actuel. Je crois que c'est finalement une tendance forte d'une nation qui n'est pas assez fière de ce qu'elle est, qui a oublié son histoire et qui est capable de tellement mieux.
Bon, Mathieu Laine, vous avez vu, il y a Balzac, et vous, allez, 150 ans.
Ce qui me
150 ans après.
Ce qui me fait envie, là, c'est de le lire. Et d'ailleurs, le 26 février, je vous donne rendez-vous. J'en ferai ma chronique mensuelle Les Échos.
Va avoir un retentissement.
Quand je l'ai reçu, je n'avais qu'une envie, c'était de m'y plonger. D'ailleurs, je m'y plonge ce week-end. Mais d'ailleurs, et à vous écouter, on a qu'une envie, c'est de s'en servir.
Ça ne trompe pas, j'ai trois journalistes collègues qui m'ont demandé s'ils pouvaient le prendre pour ce week-end. Et ça arrive rarement.
Très bien, mais ça confirme en vérité l'intuition de Mario Vargas Llosa, grand romancier contemporain, évidemment, péruvien d'origine vivant en Europe, et qui disait, il faut aller chercher la vérité par le mensonge. Qu'est-ce que c'est la vérité par le mensonge? C'est la vérité par la fiction. La fiction, c'est le roman. Et en réalité, un peu comme on pouvait dire que les poètes sont des voyants, les grands romanciers sont des voyants.
Bon, Mathieu, en attendant, vous, pour le coup, alors j'allais dire, pour le coup, sans... peut-être les fioritures du romancier. Alors vous mettez, un peu comme on met du sel sur une plaie, vous voyez, vous mettez le doigt sur quand même cette menace qui risque de dévitaliser notre société, peut-être plus sûrement que la Covid-19, qui est l'infantilisation croissante et chaque jour davantage consentie qui nous conduit à abandonner notre liberté de plein gré à un État qui sait mieux que chacun d'entre nous ce qui est bon pour nous.
Vous avez tout dit. Mais c'est vrai que cette pandémie a été une espèce de révélateur, comme en chimie, ou de boussole, qui a permis d'identifier, non pas dans l'intervention de l'État pour freiner la circulation d'un virus, ni même dans son plan de relance, parce que, en vérité, les plus grands libéraux considèrent bien que face à une pandémie, il faut bien que l'État intervienne, sinon ça ne sert à rien d'avoir un État.
Oui, bien sûr.
Mais, dans les excès, dans les délires, on l'a tous vu, je l'ai un peu dit déjà, mais cette espèce de capacité à nous demander, pour faire le tour de chez soi, d'avoir un bon de sortie, d'auto-attestation, trier les biens essentiels des biens non essentiels, bâcher les rayons, interdire l'accès aux librairies, pour la librairie de l'Écho, quelle horreur. Et donc tout cela, tous ces délires administratifs, finalement, ont permis à bon nombre de Français, me semble-t-il, d'identifier qu'il y avait là une sorte de délire. Et je ne parle pas des vaccins, et de tout, on pourrait en parler bien sûr, et de tout ce processus de lenteur qui a été créé pour que l'on atteigne un consentement qui en réalité est encore plus lent parce qu'on fait peur aux gens. Oui, donc c'est l'épidémie de la peur. Vous savez, c'est comme dans le hussard sur le toit de Giono.
Mathieu, la perversité, c'est qu'on voit bien, c'est qu'en fait, on nous demande à chaque fois un petit renoncement qui, en soi, se justifie, mais qu'au fil des petits renoncements, on en arrive quand même à une situation...
Alors, c'est vraiment là le cœur de la réflexion, c'est-à-dire ça fait il y a 15 ans j'ai déjà écrit un livre sur ce sujet, donc ça n'a rien à voir avec les
ça
dirigeants.
Ça s'appelait la grande nurserie.
La grande nurserie, en finir avec l'infantilisation des Français, j'ai eu une grosse influence comme vous pouvez le voir. Mais à la fin des fins, c'est quand même intéressant de voir qu'à travers les siècles, les dernières décennies, si on veut se plonger d'ailleurs dans Tocqueville, il a écrit sans doute parmi les plus belles pages sur cette dimension maternante, protectrice, et qui réduit en vérité la liberté et la responsabilité individuelle. Il y a une mécanique très perverse qui veut que d'un côté, l'État se veut de plus en plus protecteur aussi parce qu'il répond à des demandes de protection, mais qu'à force de protéger une bonne partie des citoyens, se disent face à un risque, je vais renvoyer ma liberté et sacrifier ma liberté au service d'une sécurité potentielle apportée par l'État, et je désapprends la liberté et la responsabilité au passage. Et là, vous avez une dynamique pernicieuse qui vous emmène, et c'est pour ça que je dis que c'est pas quelque chose qui est une espèce de réflexion éthérée d'un libéral perché, pas du tout, ça concerne tout le monde, et c'est dangereux parce que ça nous met sur un chemin de servitude.
Et vous nous dites, aujourd'hui, le danger, c'est plus Big Mother que Big Brother.
C'est le mélange des deux, mais c'est vrai qu'il y a un côté maternant, mais ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire, séparément, on peut se dire, bon, c'est fait pour notre bien quand même, tout ça. Oui. Et en réalité, dès qu'on prend un peu de recul, on se rend compte qu'on est étouffé.
C'est vrai, Mathieu Laine, sauf que, à l'épreuve des faits, la gestion de la crise, elle montre que finalement, cette approche infantilisante et, elle est moins efficace que les approches des pays qui sont davantage tournés vers la responsabilité, l'utilisation intelligente des sciences cognitives, beaucoup de pays asiatiques et qui ne sont pas des dictatures. Ou,
absolument.
Donc il y a quand même des pays qui ont eu des approches différentes.
Exactement, et dans ces pays-là, on a géré la pandémie non pas malgré le peuple, mais avec le peuple. Avec de la technologie, avec le partage d'informations. La technologie, on ne doit pas en avoir peur dès lors que c'est encadré par des normes. Ça ne devient pas forcément Big Brother. Et je trouve que, malheureusement, notre méthode, qui est de mettre, comme dans Knock, toute une population au lit, ou tout un pays sous cloche, a des conséquences vraiment terribles. Ne rentrons pas dans la guerre des âges, mais il faudra qu'on soulève un jour ce sujet, hein, pour être très honnête. Nous sommes dans une dérive qui va montrer à la fin, comme c'est toujours le cas avec l'infantilisation, c'est finalement une vraie grille de lecture, cette approche, que ça crée, c'est une machine à déception. La machine à déception crée une machine à dégagisme, et puis on va passer à un autre président, puis encore un autre, et finalement on n'attaque jamais le problème.
Alors Mathieu, on est en train, en fait, en faisant ça, d'alimenter la nouvelle idéologie que vous appelez le précautionnisme. Et ça c'est terrifiant, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la recherche de la protection absolue, du risque zéro. Pourquoi en France plus qu'ailleurs ?
Et ça a trait à ce que Alexis disait de Balzac. C'est vrai que nous avons été un État avant d'être une nation. Nous sommes très légicentristes. C'est dans l'ADN de notre peuple d'être ainsi. Et c'est vrai que aller radicalement contre n'aurait pas beaucoup de sens. Partir du principe qu'il faut vivre dans un monde aseptisé au risque zéro, c'est une promesse dystopique qui peut nous mener vraiment droit dans le mur. Et à l'autoritarisme, au despotisme.
Alors là, quand même, je vous avoue que j'ai tiqué. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin quand vous craignez justement cette tentation despotique ?
Je ne crois pas. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui disent nous vivons en dictature. Vous savez, il y a des gens qui disent ça aujourd'hui. Là, je les envoie en aller direct, peut-être par retour d'ailleurs, chez Maduro ou en Corée du Nord, pour qu'ils se rendent bien compte de ce que c'est qu'un pays libre. Je ne dis pas du tout ça, hein, Emmanuel Chypre, vraiment pas. En revanche, si vous lisez Tocqueville et si vous voyez tout ce qui se passe autour de nous, Tocqueville disait qu'on arrive au despotisme soit par la violence, soit par l'habitude. Et tout ce que je décris là, quand on prend du recul, on se rend compte que on prend l'habitude, dès qu'on a un problème, d'abandonner nos libertés au bénéfice d'un pouvoir qui n'a pas l'air et qui n'est pas d'ailleurs, qui n'a pas une mauvaise intention, il n'y a pas de perversité dans tout ça.
Mais qui nous veut du bien.
Qui vous veut du bien, comme dans le film, vous savez, Harry a un ami qui vous veut du bien.
Exactement.
À la fin, ça se finit pas très bien. Bon. Et donc, il faut quand même faire très attention au chemin qui est là. Il faut des lanceurs d'alerte, des Balzac nouvelle génération. Il y a d'ailleurs des romanciers qui le feront sans doute très bien.
Mais vous en avez un, vous en citez un là. J'ai cette citation de Kolakowski, qui est un essayiste, philosophe polonais. Alors là, moi, j'avoue que ça m'a marqué.
Formidable.
Vous le citez. Il dit nourrir l'espoir que l'on pourra institutionnaliser la fraternité, l'amour, l'altruisme, c'est préparer à coup sûr l'avènement du despotisme.
Et vous considérez qu'il va trop loin ? Honnêtement, il dit ce qui est en train de se passer. Et ce livre, je l'ai truffé de citations parce que il faut prendre des références pour pouvoir essayer de mieux comprendre le monde. Et en l'occurrence, je ne me sens pas seul quand je suis accompagné par ce genre d'esprit.
Alors, moi, je pensais, parce que maintenant, il faut réfléchir aux solutions pour en sortir.
Et alors, moi, il y a un chapitre sur ça.
Ah, mais bien sûr. Mais alors, moi, je vous avouerai que j'étais séduit au cours des dernières années par, vous savez, cette théorie du nudge.
Oui.
C'est-à-dire, en gros, cette idée qui cherchait, qui nous disait, allez, le nudge, c'est génial. C'est-à-dire, c'est cette idée, cette théorie des incitations.
C'est
l'exemple
ça.
Le plus connu du nudge, c'est on vous dessine une petite mouche dans les pissotières pour que vous uriniez dessus et éviter de salir autour.
C'est pas vous qui la racontiez.
Voilà, c'est pour expliquer que tous les gens ne savent pas, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux de recherche, etc. Et je me disais, mais oui, c'est ça la synthèse géniale, c'est qu'on nous incite à avoir les bons comportements. Et vous dites, pas du tout, malheureux.
J'étais très
séduit. Le nudge, c'est terrible.
J'étais très séduit aussi, et Thaler, honnêtement, c'est Thaler et Sunstein qui ont pensé tout cela, est un très grand penseur. Mais le drame, c'est la mise en œuvre du nudge. Donc c'est le nudge, c'est une espèce de paternalisme libertarien, dans une mauvaise traduction, mais effectivement, on crée des incitations qui peuvent être fiscales ou positionnement. Un plat de frites sera placé en bas dans la cantine et la salade en haut, on a plus de chances que la salade soit prise. Enfin, ce genre de choses très intelligentes et qui partent du cognitif, en vérité, pour orienter quand même les gens vers un meilleur comportement que vers un autre. Il y a deux limites. Déjà définir quel est le meilleur comportement, c'est toujours un problème.
Parce qu'on est toujours on sait ce qui est bon pour vous.
Exactement, c'est toujours un problème. Et par ailleurs, ils avaient quand même ce côté assez génial à dire, on va le faire mais sans forcer les gens. On crée le chemin de liberté avec les incitations pour qu'ils le fassent volontairement. Et si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Sauf que quand l'État se saisit de ce genre de choses par une espèce d'information et d'incitation, il y a toujours une clause de rendez-vous avec l'État, et surtout que vous avez des concurrents qui veulent toujours promettre davantage de suppression des risques. Et donc, ils se disent, ça marche pas suffisamment, et là, une information devient une régulation, une taxation, une interdiction.
Ouais.
C'est un chemin naturel. Et donc, il y a quand même une tendance naturelle de nos démocraties maternantes à nous emmener vers une forme de despotisme.
Et alors vous avez un développement effectivement passionnant sur ce que vous proposez, c'est ce que vous appelez finalement la capacité de l'État.
Ah oui, ou la state capacity.
C'est votre réponse, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites la capacité de l'État, c'est une synthèse entre le libéralisme adepte du laisser-faire du 19e et puis le libéralisme plus moderne, régulateur. L'État pose des règles, il peut intervenir, mais et là vous dites c'est la voie moderne qu'on choisit tout un tas de pays dans le monde et qui fonctionne très très bien. Alors vous citez l'Estonie par exemple.
Voilà. Alors il est moi mon métier c'est d'aller chercher dans le monde académique contemporain des solutions pour des dirigeants d'entreprise. Quand je travaille là-dessus, mon intuition, mon premier réflexe, c'est d'aller regarder quelles sont les dernières publications académiques. Et donc je suis allé effectivement identifier d'abord dans cette idée du state capacity, comme on dit, de la capacité de l'État, de cette idée que l'on peut définir mieux ce que l'État devrait faire. Et puis chez d'autres auteurs, notamment Acemoglu du MIT, qui vient de sortir un livre absolument remarquable l'année dernière, qui s'appelle Le Corridor étroit, qu'il faudrait traduire.
Alexis Carkling avait chroniqué
ici même
dans la librairie.
Un livre que j'ai trouvé exceptionnel.
Pourquoi croyez-vous que je l'ai lu?
Exceptionnel.
Bon, j'avais peut-être lu un peu pour. Mais je suis ravi que c'est normal. Nous avons des lectures communes. Mais pour le coup, Acemoglu vient dire quelque chose de très intéressant. Il définit ce corridor étroit entre le Léviathan ou l'État, disons, absent, et le Léviathan despotique, qui est le Léviathan enchaîné. C'est exactement ce que devrait faire le président Macron, et s'il ne le fait pas, un candidat à l'élection présidentielle. Nous avons, parce que c'était une pandémie, fait sortir l'État de son lit, comme une rivière. En plus, on voit ça en ce moment, malheureusement, en France. Il va falloir faire revenir l'État vraiment précisément là où il devait être. Et quitte à le faire revenir, peut-on questionner les endroits où il ne devrait plus intervenir ou ce qu'il devrait faire ? C'est dur d'abord, parce que quand le pouvoir et c'est sa nature s'étend, il a toujours un peu de mal à rendre le pouvoir. Quand le citoyen se déshabitue à faire par lui-même et transfère son pouvoir, il a toujours un peu peur. Ça s'appelle le vertige de la liberté. Mais que peut-il faire ? Le Léviathan enchaîné proposé par Acemoglou et son co-auteur, c'est un État qui intervient, donc c'est pas du vieux libéralisme si je puis dire, je vais me faire gronder par les libéraux classiques, mais c'est un État qui intervient en disant « j'assure les capacités d'émancipation des citoyens, l'école, l'université, santé, la formation professionnelle, et s'assurer ouais, que santé. Les plus faibles, que les plus faibles ont accès à tout ce qui permet à ces catégories de la population de monter en puissance. La santé, un revenu minimal potentiel, etc. Et que ceux qui n'ont pas besoin d'être aidés ne le soient pas.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Et je prends même dans ma bouche la dernière phrase de votre livre, Mathieu Laine. Vous dites, à propos d'un programme présidentiel futur, il n'y a pas plus noble programme que de refaire de nous une société d'adultes. Merci beaucoup à tous les deux. Alexis Karklings Marchais, Notre Monde selon Balzac, c'est aux éditions Ellipse. Et puis Mathieu Laine, Infantilisation, cet état nounou qui nous veut du bien, c'est aux éditions La Cité. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, La Librairie de l'Écho, Emmanuel Le Chip.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette Librairie de l'Écho que nous clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Stéphanie Collo, notre bibliothécaire Benaoud Abdedaïm, notre globetrotteur. Mais tout de suite, ils sont là, nos deux critiques attitrés. Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique. Bonjour Christian.
Bonjour.
Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, on va commencer, tiens, avec le choix de Christian. Alors, dégelé de livres sur Emmanuel Macron en ce moment. Hein. On en a déjà chroniqué plusieurs ici, et il y en a plein qui sortent. Vous avez choisi celui de Myriam Revaud-Allonne, L'esprit du macronisme, c'est aux éditions du Seuil.
Oui, alors Myriam Revaud-Allonne, c'est une philosophe. Donc évidemment, elle lit Emmanuel Macron avec le côté philosophique, puisque nous avons un président soi-disant nourri à la philosophie. Donc ce que nous dit Myriam Revaud-Allonne en lisant les discours d'Emmanuel Macron, c'est que il a repris toutes les caractéristiques des Lumières, vous savez, ces philosophes du XVIIIe siècle qui se sont opposés à la monarchie de droit divin, en disant non, la politique ça va être les individus, la société qui l'organise, pas le droit divin. Et donc elle montre dans ce livre qu'Emmanuel Macron reprend toutes les grandes valeurs des Lumières, mais il est tort complètement, pour leur donner un autre sens. Par exemple, les philosophes des Lumières ont dit qu'il faut placer l'individu au cœur de l'ordre politique. Chez Emmanuel Macron, ça devient l'individualisme forcené et à outrance. Alors que l'individu, Jean-Jacques Rousseau nous disait que l'individu, il était lié et il ne pouvait exister que face à la société, qu'il était endetté vis-à-vis de la société. L'autonomie, grande valeur des Lumières, l'autonomie. Pareil, l'autonomie, c'est si on veut l'autonomie pour les individus, on la veut pour tous. Et ça s'organise de manière collective. L'autonomie chez Emmanuel Macron, c'est devenu soyez entrepreneur de vous-même, le culte de la performance. Et puis enfin, il y a la responsabilité, qui était aussi une grande valeur des Lumières. Et Myriam Revaud-Allonne nous dit la responsabilité, c'est la responsabilité, par exemple, pour nous aujourd'hui, de ne pas laisser une planète complètement pourrie à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est la responsabilité d'aider les vieux lorsqu'ils ont des difficultés, les gens qui ont perdu leur boulot, les gens qui sont malades, de les aider. Non, la responsabilité chez Emmanuel Macron, c'est débrouille-toi toi-même, t'as qu'à traverser la rue et tu vas trouver du boulot. Et arrêtons de claquer un pognon dingue pour aider les plus pauvres. Donc il a repris les valeurs, mais il les a complètement tordues pour leur donner un autre sens. Tout ça dans un cadre très irénique, qui est celui de la cordée, de la métaphore de la cordée, où tout le monde est en harmonie avec tout le monde, on est tous reliés les uns aux autres, mais bien évidemment, on suit le leader maximo, qui est celui qui est tout en haut, qui est le plus intelligent, le plus beau, évidemment, c'est Emmanuel Macron, alors que la démocratie, ça fonctionne pas dans l'harmonie, ça fonctionne dans le conflit et le compromis. Alors cela dit, c'est pas ce que dit Myriam Revaud-Allonne, mais ça m'a fait penser qu'avec toute la détestation, malheureusement même la haine personnel que génère Emmanuel Macron, il fait du bien à la démocratie, si on suit Myriam Revaud-Allonne.
Mais c'est assez étonnant, Jean-Marc, parce que finalement, dans le livre de Corinne Laïc que vous aviez discuté ici, cette idée d'Emmanuel Macron un peu illusionniste, c'était quoi ? C'était le président cambrioleur. Hein.
Absolument.
Ce côté référence à Arsène Lupin, comme ça, il y a un petit côté...
Illusionniste
chez Emmanuel Macron.
Non, le livre dont on parle est un livre qui analyse d'abord non pas la personnalité de Macron, mais ses discours.
Oui.
Et elle le dit d'ailleurs, l'auteur le dit d'emblée, elle dit qu'il en a publié tellement et prononcé tellement que je suis obligé de faire un tri. Mais alors, je tiens à mettre en garde tout de suite le lecteur potentiel sur le style du livre. C'est-à-dire que de même que nous dénonçons régulièrement ici les livres de consultants qui sont dans un jargon anglicisé, quelquefois un peu étrange, là on est dans un jargon de philosophe de l'EHESS qui est pas étrange, qui est incompréhensible.
Non.
C'est-à-dire que les 100 pages, ça demande le même effort de lecture, sur le terme, en termes de temps, de compréhension, d'analyse de ce qui est dit, que les 400 pages de Corinne Laïc sur, dont nous avons parlé, sur Emmanuel Macron et sa personnalité. Ouais. Alors, effectivement, il y a ce qu'a dit Christian. Je trouve que la partie sur la responsabilité est la plus intéressante et la plus originale. Celle sur l'individu, c'est assez, bon, on retrouve les critiques, qui ont déjà été portées sur Emmanuel Macron. Et puis, je vais dire une chose qui est peut-être un peu agressive à l'égard de l'auteur, mais c'est qu'elle cite abondamment Rousseau et Montesquieu, mais quel bonheur à lire du Montesquieu par rapport à lire la production des philosophes contemporains, mais c'est un ravissement. Je n'ai compris, en fait, que ce que dit Montesquieu et ce que dit Rousseau.
Ce qui se conçoit bien, c'est l'enfermement, c'est
ça? Ah oui, je comprends oui, pas. Alors, il y a une chose que je reconnais aussi, c'est qu'elle le dit à la fin. Elle dit que tout ça, ce sont un peu des pensées qu'elle a jetées comme, au moment du confinement.
Donc vous pensez qu'elle pense comme elle écrit avec les...
Je pense qu'elle s'est dit que un travail un peu plus de reprise en main, de reprise en forme, d'amélioration de la qualité de l'expression aurait trahi un peu son... cette espèce de hargne qui a un aile dans son propos.
Ça demande un peu plus de vocabulaire qu'un livre d'économiste, hein, c'est sûr. C'est un peu plus riche. Hein.
Non,
il y a moins d'équations, il y a plus de français, c'est sûr. Mais en même temps, moi, de formation, j'ai trouvé que le livre, c'est vrai, faut le lire avec le crayon à la main, mais comme tous les livres un peu intelligents, c'est un livre érudit et intelligent. Il faut faire attention, mais je pense qu'il est très compréhensible.
Non, ça demande pas plus de vocabulaire. Ça demande un autre vocabulaire avec des mots dont je prétends qu'ils sont utilisés à contresens.
Ah bon, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez compris.
Mais certains mots, je m'attendais pas à les voir à ce moment-là.
Le problème, c'est que Jean-Marc s'est arrêté au XVIIIe siècle, donc il a un peu de mal avec les philosophes contemporains.
Mais oui, je regrette effectivement que nous n'ayons plus Montesquieu et Rousseau. Finalement, je rejoins là, je rejoins Christian.
Bon, sans doute beaucoup plus facile à lire, le livre que vous avez choisi, Jean-Marc Daniel, le livre de Pascal Boniface, le géopoliticien, d'ailleurs ça s'appelle « Géopolitique de l'intelligence artificielle », c'est publié chez Erol.
Oui, alors pour moi, ça a été un bonheur de lecture, ce livre. D'abord,
surtout après la souffrance du Myriam Revaud-Allonne.
Oui, oui. D'abord parce que Pascal Boniface, on le connaît bien, c'est quelqu'un qui est un esprit très affûté et toujours à la fois clair et très argumenté dans sa façon de présenter les choses. Il le dit d'emblée dans la préface qu'il n'est pas un grand savant, qu'il n'est pas un scientifique, qu'il n'est pas un spécialiste de tout ce qui est les nouvelles technologies, l'informatique. Il va essayer d'appréhender les choses sur son fonds de commerce, à partir de son fonds de commerce, qui est la géopolitique. Donc, il y a une première partie qui est un peu un résumé de la littérature sur le sujet. Il se réfère beaucoup à Kai Fu Lee, qui est un auteur dont nous avons déjà eu l'occasion ici de commenter les livres. Et puis, alors, la dernière partie, où il parle vraiment de géopolitique et de ce duopole qui se met en place entre les États-Unis et la Chine, et de la façon dont les autres pays peuvent réagir et essayer de faire leur propre destin face à ce duopole, avec, par exemple, la comparaison entre la guerre froide, entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et il dit, à l'époque, dans les années 80, on voyait bien une Union soviétique qui avait tout axé sur le militaire et un Japon qui était en train de faire émerger une rivalité avec les États-Unis sur le plan technologique. La force de la Chine, c'est qu'elle est en train de réunir le Japon et l'Union soviétique de l'époque. C'est-à-dire, aussi bien l'Union soviétique que le Japon n'ont pas été capables d'ébranler la puissance américaine, alors que maintenant la Chine, à la fois parce qu'elle est militaire, parce qu'elle est technologique et parce qu'elle est déterminée, peut effectivement mettre à bas la toute puissance américaine. Donc il y a quelques considérations comme ça que je trouve à la fois bien vues et, encore une fois, bien expliquées, qui font que c'est un livre que je recommande chaudement.
Très bien. Christian Chavagneux.
Moi, j'ai été très surpris. Pascal Boniface, on le connaît, ça fait des décennies qu'il commente les rapports de force mondiaux. Et là, je découvre qu'il découvre que l'intelligence artificielle fait partie des éléments à prendre en compte pour comprendre ces rapports de force mondiaux. Susan Strange, il y a à peu près plus de 30 ans, nous disait que celui qui contrôle les données, c'est lui, quelqu'un qui aura beaucoup de pouvoir au sein de l'économie mondiale, que ce soit des États ou des entreprises privées. Donc, le thème est là depuis plus de 30 ans. Et puis, sur l'intelligence artificielle, plus spécifiquement, spécifiquement. Avec Jean-Marc, j'ai regardé, on a pratiquement chroniqué à tous les deux, discuté d'une petite dizaine de livres. Une petite dizaine de livres. Donc j'étais, après avoir été surpris, j'étais un petit peu déçu, parce qu'en fait, l'essentiel du livre n'est pas seulement dans la première partie, comme l'a dit Jean-Marc, mais dans tout le livre. Pascal Boniface propose un résumé de choses qu'avec Jean-Marc, on a commenté depuis 3, 4, 5 ans déjà. Tout au début, sur l'historique, maintenant c'est très connu, le deuxième chapitre, et sur les GAFAM en général... Pas sur l'intelligence artificielle en particulier. Ensuite, comme l'a dit Jean-Marc, il y a deux chapitres de géopolitique. Donc là, on nous dit il y a les États-Unis et la Chine. Kai Fouli est cité abondamment, mais ça fait combien, 4 ans, 5 ans qu'on a commenté déjà le bouquin de Kai Fouli. Ça fait déjà un moment pour nous dire que l'Europe est en retard. Oui, l'Europe est en retard entre les deux. La fin du chapitre, c'est oui, mais il n'est pas trop tard pour l'Europe. Sauf que tout le chapitre nous montre l'inverse, et malheureusement, Pascal Boniface ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'Europe aille plus loin. Le dernier chapitre est aussi intéressant, c'est sur la France, spécifiquement au sein de l'Europe, mais là, c'est en gros un résumé du rapport Villani. Donc, moi, j'ai trouvé un livre qui... J'étais surpris d'abord que quelqu'un qui est un observateur aussi attentif des rapports de force mondiaux se mette sur ce sujet si tardivement. Il y a plein de McAfee, Bridge of Soul, qu'on citait sur demain, quelles vont être les vraies compétences dans ce monde de l'intelligence artificielle. C'est un domaine, par exemple, c'est un sujet qui est pas du tout qui n'est pas du tout abordé. Est-ce que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine, et qu'est-ce que ça veut dire et quand? C'est un sujet qui n'est pas abordé. Bref, il a fait ses devoirs à la maison, il a lu tout ce qu'il y a d'intelligent à lire sur le sujet, mais il a loupé plein de bouquins parce qu'il arrive tardivement. Et du coup, j'étais un peu déçu, j'ai eu l'impression que tout ce que j'ai lu là, je l'avais déjà lu ailleurs.
Même sur la partie géopolitique.
Même sur la partie géopolitique. Ouais. La partie Europe, États-Unis, Chine, c'est du Kai Fouli, en un peu moins bien. Et la partie sur la France, c'est le rapport Villani. Donc j'étais un peu déçu.
Merci messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Stéphanie Collot qui va nous replonger en plein cœur de la Révolution française.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Emmanuel.
Allez, en quelle année faites-vous finalement stopper notre formidable machine à voyager dans le temps?
Alors cette semaine, on s'arrête le 26 septembre 1789.
Ah, au cœur de la Révolution.
Jour où Mirabeau s'exprime devant la tribune de l'Assemblée constituante. Ouais. Il vient défendre la proposition de Necker, c'est-à-dire augmenter les impôts pour éviter la banqueroute.
Aïe, 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 aïe. Alors qui est Mirabeau?
Alors Stéphanie. Honoré Riquetti, comte de Mirabeau, c'est un écrivain. Un homme politique, figure de la Révolution, vous l'avez dit. Il est né en 1749. Il étudie le droit à l'université d'Aix-en-Provence. Il mène une vie ensuite de débauche, accumule les dettes, si bien que son propre père l'envoie en prison. Et à la veille de la Révolution, Mirabeau se présente en Provence aux élections des États généraux. Il est rejeté par la noblesse, mais se fait élire par le tiers État en 1789. C'est un orateur hors pair de l'Assemblée nationale. Il est le porte-voix des révolutionnaires. Il fait aussi partie des fondateurs de la Société des Amis des Noirs en faveur de l'abolition de la traite des Noirs et de l'esclavage. Il a aussi une position ambiguë, il faut le dire, puisqu'il est favorable à une monarchie constitutionnelle. Il défend sans succès le veto absolu, tout en continuant à défendre le peuple.
Alors, pourquoi prend-il cette position, Mirabeau, en faveur d'une hausse d'impôts? Dans quel état est la France à l'époque?
Alors, il faut savoir qu'en 15 ans de règne, Louis XVI a triplé les dettes. Les finances du royaume sont totalement à sec. La dette publique s'élève à 80% du PIB. Et Mirabeau dresse le constat ce constat en tout début de tribune. Il dit 2 siècles de déprédation et de brigandage ont creusé le gouffre où le royaume est prêt de s'engloutir. Il faut le combler, ce gouffre effroyable. Le ministre des Finances de l'époque, Necker, vient régulièrement devant l'Assemblée constituante pour demander des emprunts et des hausses d'impôts, ce que refusent les représentants. Et ce 26 septembre 89, Necker est au pied du mur. Il doit faire voter des hausses d'impôts ou c'est la banqueroute. Il propose un impôt représentant 25% des revenus des plus riches.
Et on comprend que Necker n'est peut-être pas le mieux à même pour défendre sa proposition. Mirabeau est plus éloquent, plus convaincant.
En fait, c'est Mirabeau qui vient défendre la position de Necker devant la tribune. Il dit « Choisissez parmi les plus riches afin de sacrifier moins de citoyens, mais choisissez, car ne faut-il pas qu'un petit nombre périsse pour sauver la masse du peuple? Allons, ces 2000 notables possèdent de quoi combler le déficit. » Avant d'ajouter « Aujourd'hui, la banqueroute, la hideuse banqueroute est là. Elle menace de vous consumer, vous, vos propriétés, votre honneur, et vous, vous délibérer. Et Mirabeau met son auditoire en garde. Gardez-vous de demander du temps, le malheur n'en accorde jamais.
Donc il veut un impôt sur les plus riches. En fait, il défend la politique de Necker. Il n'empêche que Mirabeau et Necker, ça n'a pas toujours été le grand amour.
Oui, parce que Necker, en fait, il énonçait la nécessité pour tout gouvernement, en temps de guerre, de recourir à l'emprunt pour éviter d'asphyxier l'économie par trop de taxes. Sauf que Mirabeau, de son côté, lui, dénonce le recours pernicieux à l'emprunt et plaide pour une réforme de l'impôt. Il dit, et c'est très actuel, la dette publique fut le germe de la liberté, elle a détruit le roi et l'absolutisme. Prenons garde qu'en continuant à vivre, elle ne détruise la nation et nous reprenne la liberté qu'elle nous a donnée.
Ouais, et cette discussion entre hausse des impôts ou plus d'emprunt, je pense qu'on n'a pas fini de l'avoir dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup Stéphanie. Allez, c'est l'heure de faire notre valise. Hein, on en rêve tous, et ben là, c'est Benaoud Abdelhaïm qui nous emmène à travers le monde.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Benaouda, on commence par un sujet dont vous allez devenir l'expert à force de nous dénicher les meilleures études sur le sujet dans le monde entier, le télétravail.
Oui, télétravail et travail mobile, flexibilité à l'ère numérique, d'Oscar Vargas Llave chez Eurofound. Alors le télétravailleur européen est davantage susceptible de dépasser largement ses horaires que celui qui travaille dans les locaux de son employeur. C'est vraiment là démonstration de ce rapport d'enquête qui est publié par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. C'est une agence décentralisée de l'Union européenne qui est basée à Dublin. Bien entendu, ce document procède secteur par secteur, fonction par fonction, etc. Et il commence par établir que ceux qui disposent d'un cadre organisé au point techniquement, technologiquement, ils ont les bons outils, font état d'une meilleure autonomie, d'une meilleure productivité. D'accord. Et d'une amélioration de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Notamment du fait de moins de temps perdu dans les transports. Il est notamment fait référence à une recherche académique de 2015 qui montre que 84% des télétravailleurs en France, à l'époque, en 2015, issus d'un échantillon dit représentatif, estiment que leur productivité personnelle a augmenté et 81% affirment même que la qualité de leur production fournie était supérieure chez eux qu'à leur bureau. Alors, élément que l'on retrouve également ensuite dans des études du même ordre en Belgique, aux Pays-Bas, donc c'est vraiment quelque chose d'européen. La formation permanente n'est pas davantage affectée par cette situation, ce qui peut c'est un point très important, c'est la visibilité au sein de l'entreprise et donc une moindre propension, une moindre possibilité de faire évoluer sa carrière. Alors, avec l'autonomie, vient souvent donc une intensification du labeur, hein, c'est vraiment le terme à employer, dans une perspective constante de ne surtout pas se laisser décrocher dans une compétition interne au sein de l'entreprise. Le paradoxe de l'autonomie, nous dit Oscar Vargas Llave, est ainsi un télétravailleur régulier est deux fois plus amené à dépasser la limite légale des 48 heures hebdomadaires, c'est la limite européenne, qu'un travailleur normal dans son bureau normal.
D'accord, passionnant. Qu'est-ce que l'internetisation de la migration internationale, Benaouda?
Oui, un néologisme. Il s'agit d'une étude dirigée par l'Université canadienne McGill. Ouais. Pratiquement 160 pays examinés en croisant un ensemble de sources. L'objet de la recherche de Luca Maria Pesando et de ses collègues, c'est voir comment le taux de pénétration d'Internet dans une société, dans un pays, peut être corrélé à la propension à émigrer, à l'intention d'émigrer. L'équation est vraiment très claire. Plus le pourcentage d'utilisateurs réguliers d'Internet est élevé, plus la proportion, la disposition à partir est élevée, quel que soit le pays. Et cela, que le motif premier soit d'ordre économique ou bien d'ordre politique. Pourquoi ? Parce que l'accès à Internet permet de se comparer à autrui partout ailleurs dans le monde sans le filtre d'une autorité quelle qu'elle soit, éducative, politique, sociale, peu importe. Un avenir plus radieux à l'étranger devient temporairement, pour toujours, pour certains, un horizon qui repose sur des informations précises que l'on peut évaluer soi-même. C'est un travail spécifique qui est mené en Italie, qui est particulièrement intéressant dans cette recherche, qui a été menée dans un centre de réception d'immigrants en Calabre et qui atteste que parmi les demandeurs d'asile, plus les compétences numériques d'une personne sont affirmées, plus elle a une propension à rechercher une amélioration de son sort économique à l'extérieur. Elle ne cherche pas à rester dans ce centre. Si l'on prend par ailleurs un baromètre dans 14 pays arabes, quel que soit le niveau d'éducation, l'indice de volonté des migrations est supérieur parmi les utilisateurs d'Internet au quotidien. Donc, on est au-delà du simple au double pour une personne qui ne serait-ce qu'à fréquenter l'école primaire, donc qui sait se servir de façon basique d'Internet. Alors, les auteurs concluent que leur travail de croisement des sources, c'est encore très important de souligner cela, sur ce sujet, suggère qu'Internet n'agit pas seulement comme un instrument d'observation des comportements migratoires, mais que maintenant, il soutient à présent, effectivement, de façon active, le processus des migrations, c'est-à-dire qu'on passe par Internet pour émigrer.
Passionnant. Enfin, on s'intéresse à l'actionnariat de Huawei, Ben Aouda.
Oui, et sa structure de gouvernance. Alors, vraiment un dossier qui mobilise en ce moment les services de renseignement occidentaux. Nous avons parlé récemment sur cette antenne du travail des services suédois. Comment démontrer que Huawei, l'équipementier télécom chinois en pointe dans la 5G, serait sous le contrôle de l'armée populaire de libération, c'est-à-dire de l'armée chinoise. Et alors, ils vont devoir chercher ailleurs que dans cette quarantaine de pages en chinois, rédigées par un professeur de droit à Pékin, spécialiste des questions juridiques sur l'investissement. Nous avons eu la traduction par un confrère chinois, Yicheng Wang, en anglais, qui est un journaliste qui publie une lettre qui s'appelle Pekinglology. C'est un travail vraiment de haute valeur, d'après lui, parce que vraiment, il brosse l'ensemble des sources ouvertes sur ce sujet. Alors, il faut rappeler que le capital de Huawei est officiellement détenu par ses salariés, leur part formant un bloc qui est sous le contrôle d'une holding à 99% formée par un comité d'organisation syndicale, qui est une instance sous supervision formelle du Parti communiste chinois. Ce qui poserait donc la question du caractère virtuel, en fait, des actions détenues, puisqu'elles ne seraient pas détenues et assorties d'un droit de propriété. Mais le professeur Wang Jun considère qu'il n'est pas juridiquement fondé d'y voir une entreprise d'État, et donc encore moins une entreprise de l'armée, parce que ce juriste qui a travaillé encore une fois sur l'ensemble des sources ouvertes disponibles, estime que l'approche de l'actionnariat collectivisé élimine d'abord les difficultés de prise de décision pouvant résulter de l'actionnariat salarié direct, et de ce fait, cela renforce en fait l'autonomie de gestion de ce management par rapport au pouvoir public. Et en ce sens, il est plus réaliste, je cite l'auteur, de dire que Huawei est contrôlé par la direction plutôt que par le syndicat. Et ni de près ni de loin, il n'est ici question de la main de l'armée. Bien entendu, tout cela est susceptible d'être remis en cause avec d'autres recherches.
Eh bien, au moins, c'est très clair. Merci beaucoup, Ben Aouda, Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ?
Alors, j'ai choisi le dernier numéro d'une revue qui est une publication à mi-chemin entre la revue académique scientifique et le news magazine qui est l'Histoire. Alors, c'est une revue qui est toujours de très bonne qualité, que je lis toujours avec plaisir, et le dernier numéro, celui de février, est consacré, entre autres, à une histoire des inégalités.
Ah ouais !
Donc, 1000 ans d'histoire des inégalités, il y a une interview qui commence avec les conséquences de la révolution franciscaine sur la perception par l'Église de la pauvreté et des inégalités. Ouais. Il y a une interview de Thomas Piketty, et je me suis, de façon assez surprenante, senti en accord avec lui sur un certain nombre de sujets.
Oh là là, Jean-Marc, attention.
Oui, effectivement.
C'est quoi ce virus qui frappe? Un virus inconnu.
Oui, il faut que je me ressaisisse. Et puis, il n'y a pas que ce dossier sur les inégalités. Il y a un article que j'ai trouvé passionnant sur le destin des soldats soviétiques qui avaient été faits prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ont d'abord été maltraités, c'est le moins qu'on puisse dire, par les nazis, et ensuite à leur retour en Union soviétique, qui se sont heurtés là aussi à des mises en accusation, des procès, un destin assez tragique du fait du pouvoir stalinien. Donc c'est un numéro que je recommande de façon générale, et plus particulièrement ce mois-ci.
Formidable. Vous l'avez lu, Christian, ou pas?
Je l'ai reçu, j'ai commencé à le lire, et si Jean-Marc ne l'avait pas choisi, je pense que je l'aurais choisi à un moment donné aussi.
Ok, alors Christian, vous avez
choisi... Moi, je reste dans l'histoire aussi, mais je vais faire plaisir à Jean-Marc, puisque je vais parler de l'un de ses héros, qui est de David Ricardo.
Front renversé. Jean-Marc Daniel dit, Thomas Piketty, formidable, et puis Christian Ricardo. David Ricardo, génial.
Voilà, je n'ai pas dit David Ricardo, génial. J'ai dit que j'allais parler de David Ricardo, et Paul Samuelson, le grand économiste américain, il y a 10 ans, nous a fait un papier résumant Ricardo avant Ricardo, c'est-à-dire Ricardo avant qu'il soit un économiste. On sait que c'était un trader, en fait, à la Bourse de Londres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Paul Samuelson nous a dit, Ricardo, il a fait un coup génial. Il avait quelqu'un à Waterloo. Il a eu le résultat de la bataille avant tout le monde. Il a fait comme si les Anglais avaient perdu. Il a vendu. Tout le monde a dit, Ricardo à la nouvelle. Tout le monde a vendu. Les prix ont été très bas. Il a tout racheté. Et quand on a su que l'Angleterre avait gagné, tout a monté. Il a fait un coup de bourse incroyable. Il est parti à la retraite. Tout ça raconté par Samuelson il y a 10 ans. Samuelson ajoutant, et il a même forcé Malthus, son ami, à spéculer alors que Malthus voulait pas. Et le document qui sort nous montre que tout ça, tout ce récit de Samuelson est complètement faux. Il ne s'est jamais produit ça. C'est tout ce qu'on connaît sur Ricardo, que je croyais, que je racontais, tout ça est faux. Un économiste d'Amsterdam a fait un travail de fourmi de reprendre toutes les transactions financières de Ricardo. Et en fait, on s'aperçoit de quoi. Ricardo dealait sur de la dette publique britannique, parce que c'était ce qui était essentiellement sur le marché financier à l'époque. Et il se contentait de toutes petites marges. Ça montait de 1-2%. Il revendait tout de suite. Mais comme il avait des très gros volumes, il a gagné, c'est vrai, beaucoup d'argent à la bourse, qui lui a permis de devenir économiste et député. Mais c'était pas du tout un grand spéculateur. Il dit d'ailleurs que la spéculation financière, il en veut pas. Et c'est vraiment un travail de fourmi extraordinaire qui remet en cause. On a le vrai Ricardo financier.
Alors là, les amis, Jean-Marc Daniel, Piketty, c'est chouette. Christian Chavagneux qui nous parle de Ricardo. Et si en plus on nous dit qu'on peut plus faire confiance à Paul Samuelson, un des plus grands économistes quand même du siècle. Je me rappelle quand j'étais à l'Expansion, on avait fait les Nobel Élise. Leur Nobel. On avait demandé à tous les Nobel d'économie encore vivants d'élire leur prix Nobel. Et bien, le plus grand économiste pour les prix Nobel, c'était Paul Samuelson. Alors, moi, je termine sur un sujet complètement différent, mais qui est quand même un sujet économique. C'est le livre de Jean Todt. Alors, tout le monde connaît Jean Todt, patron d'écurie de course, Peugeot, Ferrari. Je pense que vous savez moins que Jean Todt est aussi, depuis 2015, le secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière. Et alors, il publie des millions de vies à sauver sur les routes du monde, parce que pendant que nous on s'étripe autour de la vitesse limitée à 80 km/h ou pas sur les routes, etc., eh bien 97% de la mortalité routière se fait ailleurs que dans nos grands pays, et que c'est un véritable enjeu mondial que d'essayer de sauver les 1,4 million de vies des gens qui meurent chaque année sur la route, et Dieu sait si ça a des répercussions économiques aussi. C'est très intéressant, c'est toutes les propositions pour avoir une nouvelle approche de la sécurité routière intelligente et qui n'est pas basée uniquement, comme trop souvent chez nous, sur la répression. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.